Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Les gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient qu'on est juste des molécules bien assemblées, l'amour existe parce qu'on a un cœur et une âme qui peuvent ressentir des sentiments et des émotions. Et notre besoin d'amour qu'on voit chez tous les êtres humains, c'est la démonstration, selon moi, de la nature spirituelle et qu'on n'est pas seulement de la matière. Notre besoin d'amour concorde tellement bien avec le fait que nous sommes créés à l'image de celui qui est amour. Si on n'est que de la matière, d'où vient l'amour, hein? Et la plus récente réponse de nos scientifiques, c'est que l'amour est une réaction chimique dans le cerveau. Tout autour de nous, ce besoin d'amour-là crie, hein? Les conjoints, un envers l'autre, ils veulent être aimés, les enfants envers les parents, tout le monde dans nos relations, on a besoin d'amour. C'est pas pour rien qu'on a ce fameux chant qui est resté au fil du temps, hein? All you need is love. Love is everything. On a besoin d'amour, l'amour c'est tout. Tout ce qui se chante sur l'amour n'est pas toujours vrai. Il y en a des chansons d'amour, mais cela, c'est grandement vrai. L'amour est la chose la plus importante qui soit. Hein? La parole, on va le voir tantôt dans 1 Corinthiens, dit l'amour est la plus grande des choses. Prochaine image. La forme d'amour dont on va parler, c'est évidemment, excusez-moi, l'amour agapé. L'amour agapé qui reflète un choix personnel, pas seulement des bons sentiments, mais vraiment un engagement du cœur, une sollicitude, on est engagé, un amour agissant. Comme Dieu l'a fait envers nous, et là vous avez les quelques versets, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. De la même façon pour nous, le sacrifice le plus grand qu'on puisse choisir de faire, c'est de donner sa vie pour ses amis, de se sacrifier, d'investir dans la vie des autres. L'apôtre Jean, dans sa première épître, exprime ces deux vérités-là en même temps, en disant... Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, par de Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Le véritable amour agapé est une manifestation de notre régénération, du fait qu'on a la vie en nous. Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Et un petit peu plus loin, chapitre 4, verset 7, « Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Quels beaux versets qui font du bien à nos cœurs, à nos âmes. La description la plus simple que la Bible fait de Dieu est que Dieu est amour. L'amour est la manifestation la plus divine et la plus pure de Dieu. Et l'apôtre Jean continue en disant, « Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » La description la plus simple de Dieu et la caractéristique la plus importante du chrétien, c'est l'amour. L'Église de Jésus-Christ devrait être caractérisée par son amour. La qualité numéro un d'une Église en santé, devrait être son amour pour Dieu, pour les frères et pour son prochain, pour toutes les personnes. Prochaine image. Le plus grand commandement répété par la parole et confirmé par Jésus, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et on sait que c'est une priorité, c'est la chose la plus importante et c'est spécial, hein? On dit que c'est le plus grand commandement. L'amour est partout dans la société, des chansons d'amour, des films d'amour. Hein? On parle beaucoup d'amour quand dans la sexualité, dans le sport. Hein? On l'aime-tu, notre équipe préférée, les Canadiens ou peu importe. On aime nos athlètes aussi, partout. L'amour est là. On aime l'argent, on aime la nourriture, on aime la liberté, on aime le pouvoir, on aime la victoire. Tout est inclus dans l'amour, tout est lié sur le fait d'aimer. L'amour est également partout dans la vie chrétienne, dans la parole, dans le salut, dans la personne de Dieu, dans les relations. Mais la vie chrétienne, c'est de recevoir et de vivre l'amour de Dieu. Donc, l'amour est un commandement, l'amour est partout et l'amour est dans notre relation avec Dieu. Prochaine image. Mais l'amour, c'est rare, hein? On a ces liens-là, on veut s'aimer les uns les autres. L'amour est rare. L'amour est une denrée tellement rare. On peut pas l'acheter. Ça coûterait trop cher d'acheter de l'amour. C'est comme de l'eau dans le désert, hein? Tout le monde en a absolument besoin. Tous en veulent et personne n'en a à donner. On est des grands endettés de l'amour. On en a absolument besoin pour nous-mêmes. On veut bien en donner aux autres, mais on ne sait pas où en trouver. On ne sait pas comment faire pour en avoir plus. On en manque. L'amour est fait pour donner. Il va dans une direction, de moi vers les autres. Et je peux décider d'aimer. J'ai pas de contrôle sur l'amour que je vais recevoir de la part des gens. Mais pour donner de l'amour, il faut au préalable en recevoir. Et il faut en recevoir de la part de Dieu. Et ensuite, on va pouvoir en donner aux autres. Donc, dans la parole, on a un appel à aimer. Et pour le croyant, cet amour, cet appel-là à aimer, c'est pas facultatif. On a vu que c'était un commandement. On peut dire que c'est une obligation. En même temps, quand on parle de commandement puis d'obligation pour l'amour, on réalise rapidement qu'on ne peut pas se forcer à aimer. On peut pas se discipliner, hein. Tantôt Gilles parlait de Pharaon qui disait « paresseux, allez, travaillez, faites des briques ». On peut pas dire « ah ouais, chrétien, aimer », on peut pas aimer avec force et dureté, mais quand on va aimer, ça va être dans la douceur, dans la bonté. On peut pas aimer en étant tendu, irrité, fâché, mais il va avoir une compréhension, une indulgence qui dans le cœur. Et je vous invite à lire avec moi dans les deux prochaines images ce beau petit texte que j'ai trouvé sur l'amour, le fait que oui, c'est un commandement, c'est une obligation, mais on peut pas forcer notre cœur à aimer juste parce qu'on le décide. Vous pouvez lire avec moi. Le devoir sans amour nous rend acharnés. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. La justice sans amour nous rend durs. la vérité sans amour nous rend critiques. L'intelligence sans amour nous rend rusés. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites. Prochaine image. L'honneur sans amour nous rend orgueilleux. La possession sans amour nous rend avares. La foi, ça nous intéresse. La foi sans amour nous rend fanatiques. La vie sans amour est sans valeur. Et je me suis permis d'ajouter que l'amour sans Jésus nous rend vide. On essaye d'en donner, puis à un moment donné, on est à bout de ressources. Oui, c'est une obligation. Oui, c'est un commandement. Mais Jésus nous montre le chemin à prendre. Il trace la voie. Aimer, oui, c'est un commandement, une obligation dans le sens que c'est ça qu'on veut. Mais aimer, c'est surtout une invitation de la part de Dieu. Et j'aime tellement ce verset dans Éphésiens 5:2 qui dit « Marchez dans l'amour ». À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Cet amour-là, c'est un fruit. C'est quelque chose qui est produit comme sur un arbre que on peut pas faire que l'arbre il produise le fruit plus vite. On peut pas y ordonner de donner le fruit quand c'est pas le temps, quand c'est pas dans le processus. Donc, c'est le produit du Saint-Esprit. Il peut pas venir uniquement cet amour de notre volonté humaine. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est la première caractéristique du fruit de l'Esprit et certains commentateurs de ce passage croient que le fruit de l'esprit, la principale caractéristique, c'est l'amour et que les autres attributs qui sont décrits, c'est un peu la description de cet amour-là. Quoi qu'il en soit, l'amour est crucial. L'amour est au centre et le Seigneur doit produire cet amour-là dans nos vies. Une belle expression qu'on a dans la parole, qu'on va voir dans quelques instants, c'est que l'amour est plus excellent. Il est bien au-delà du service dans la chair, dans la volonté humaine, avec nos motifs qui peuvent être bien des fois égoïstes. La vraie vie spirituelle ne se reflète pas dans l'exercice des dons, dans les accomplissements, mais dans la manifestation de l'amour. Sans ce premier fruit de l'esprit, le service est contre-productif, puis notre ministère est sans valeur réelle devant le Seigneur. Pour aimer et expérimenter l'amour de Dieu, il faut être en dépendance de Dieu et lui demander de produire ce fruit dans nos cœurs. Et le cri de nos cœurs, ça devrait être « Seigneur, donne-moi ton amour ». Prochaine image avec les versets de 1 Corinthiens 12 et 13. On connaît le dernier verset du chapitre 12 qui dit, après avoir parlé des dons, puis que les Corinthiens se vantaient beaucoup d'avoir tous les dons, puis d'avoir le parler en langue, puis le don de discernement. Ils mélangeaient beaucoup de choses et ils exerçaient leur don pas toujours de la bonne façon. Et Paul leur dit, « Je vais vous montrer une voie par excellence. » Et cette voie-là, on a les super beaux 13 prochains versets sur l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et cette voie-là, c'était l'amour, le verset 13 à la fin, il dit « La foi, l'espérance, l'amour demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » L'amour est plus grand et a une plus grande valeur que tout même dans notre vie chrétienne, dans notre théologie, dans notre système de pensée, et bien des fois, on laisse d'autres choses être plus importantes que l'amour. Et à ce moment-là, l'amour n'est plus au centre, l'amour n'est plus en premier. Quand on dit que rien n'est plus important que l'amour, est-ce que la vérité pourrait être plus importante que l'amour? Par vérité, on entend les enseignements de la parole de Dieu. On insiste avec raison pour garder les deux vertus en équilibre, hein? L'amour et la vérité. L'amour sans vérité, ça déforme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a un contenu qui doit être correctement connu. On doit apprendre des vérités sur l'amour de Dieu. La vérité sans amour nous conduit à une religion stricte où les gens sont sacrifiés sur l'autel de la vérité. C'est vrai, c'est Dieu qui le dit, donc on se permet de blesser des gens puis de manquer d'amour envers eux. Malheureusement, l'histoire de l'Église contient son lot de crimes, de méchanceté faits au nom de la vérité biblique. L'enjeu, le véritable enjeu, c'est l'amour. Défends la vérité, oui, mais dans l'amour. Expose la vérité par l'amour. La vérité principale, c'est aimer. Aime Dieu, aime ton frère, aime ton prochain et même aime ton ennemi. On ne peut jamais sacrifier l'amour pour la vérité, mais on le fait régulièrement. On pense qu'on a le droit d'être dur, blessant, intransigeant, parce que on défend la vérité. Si la vérité m'empêche d'amour, d'aimer, je ne suis plus dans la vérité. Est-ce que la moralité, hein, on dit rien n'est plus grand que l'amour, est-ce que la moralité, la pureté sexuelle, toutes les règles que Dieu a données, que la société est en train de faire sauter, est-ce que ça, c'est plus important que l'amour? La pureté sexuelle en dehors du mariage et tous les autres sujets qui ont un lien avec la sainteté du corps. Est-ce qu'on peut se permettre de manquer d'amour envers les gens parce qu'on défend la morale de Dieu, hein? On défend le bien, et c'est pour ça qu'on peut manquer de savoir-vivre puis de respect de base. Bien des fois, nous les chrétiens, on veut que les non-croyants agissent comme nous, chrétiens. On veut qu'ils agissent comme un chrétien avant de l'être. Et c'est pas, ça devrait pas être notre but. Je pense qu'on a assez à s'occuper de nos propres vies puis du péché qui est en nous et on va avoir suffisamment de travail envers les non-croyants. Communiquons l'amour de Dieu aux gens, puis une fois qu'ils le connaîtront personnellement, ils vont faire par eux-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui va les guider à sanctifier leur vie. Donc, non, la moralité n'est pas plus importante que l'amour. On peut même aller un peu plus loin. Est-ce que le salut est plus important que l'amour? Devant l'importance de la vie éternelle, de la sécurité, du fait d'être au ciel avec Dieu, devant l'importance de ce si grand salut, est-ce qu'on peut se permettre à ce moment-là de ne pas avoir d'amour pour les gens à qui on présente le salut? Est-ce qu'on cherche seulement des gens qui sont intéressés comme des vendeurs et une fois qu'on voit qu'ils n'achètent pas notre message, eh bien, on peut les mettre de côté puis dire « je suis libre du sang de ce juste » comme on utilise des fois. On dit « c'est leur problème, j'ai pas de temps à perdre ». Si des gens avec qui on est en contact, on se détourne d'eux parce que on n'a pas accepté, ils n'ont pas accepté notre message, hey, c'est un manque de respect. On devrait parler avec amour pour faire connaître le message d'amour de Dieu. Et ça devrait paraître. Quand on parle du Seigneur aux gens, notre amour doit se voir dans nos gestes, dans nos paroles. L'amour doit se manifester dans le respect, dans l'écoute, dans la façon qu'on partage la bonne nouvelle. Le salut n'est pas séparé de l'amour. L'amour est dans le salut. Le salut n'est pas plus important que l'amour. Donc, on n'annonce pas le salut au détriment de l'amour. La conclusion, c'est que rien n'est plus important que l'amour. Tout ce qu'on fait devrait être inspiré par l'amour de Dieu. On a la prochaine image qui nous donne les principaux versets de 1 Corinthiens 13, 1 à 3, hein, qui dit que quand même que j'aurai le don des langues, que j'aurai la connaissance de tous les mystères spirituels, que j'aurai la foi pour transporter les montagnes, hein, que je donnerai tout ce que je possède, puis même que je donnerai ma vie, là, littéralement mourir. Si je fais toutes ces choses-là qui semblent être incroyables, ben le verdict, ça ne sert à rien. L'amour se sacrifie, oui, mais ce sont pas tous les sacrifices qui sont de l'amour. La générosité avec amour, c'est grand, mais la générosité où on donne tout sans amour, c'est rien. Donc, toute une vérité pour nous. Il est possible de faire de grandes choses pour l'avancement du royaume de Dieu, mais Dieu qui voit dans les cœurs voit que on le fait pas pour lui, on le fait pas pour les autres non plus, mais on le fait peut-être pour des mauvaises raisons pour soi-même. Donc, la conclusion qu'on veut avoir ici, c'est que rien n'est plus important que l'amour. L'amour véritable donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tellement reçu le chrétien qu'il veut répondre en donnant à son tour. L'amour est un engagement. Je m'engage à donner ma vie pour faire du bien à l'autre. Le vrai amour demande quelque chose de nous et non de l'autre. Celui qui aime dans son cœur, son intérêt, c'est de donner, puis s'il reçoit pas en retour, il va quand même avoir sa joie dans le Seigneur. L'exemple suprême est celui de notre Dieu. Il a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné Jésus. Il est dit de Jésus qu'il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Quand il a lavé les pieds et quand il a vraiment mis le comble de son amour, c'est quand il a donné sa vie sur la croix. L'amour est sacrificiel. Celui qui aime est prêt à sacrifier son bien-être pour le bien des autres. Et l'amour n'est pas un sentiment passager qui vient et va selon les circonstances, mais un engagement qui va résulter dans un don de soi. On a besoin de revenir à l'essentiel. Recevoir l'amour de Dieu, y répondre pour notre vie. Il faut aller directement au cœur et faire en sorte que toute la vie chrétienne va être le résultat de notre amour pour Dieu, du fait qu'on se sent profondément aimé par Dieu. Donc, la première question, est-ce que j'expérimente présentement encore l'amour de Dieu pour moi? Est-ce qu'on est touché? Est-ce qu'on le vit? Est-ce que c'est concret? Et la deuxième question, c'est est-ce que j'aime comme Dieu m'a aimé? Est-ce que je suis capable d'être tellement touché par l'amour de Dieu que je vis cet amour-là que je peux donner aux gens? Donc, on a besoin d'aimer dans la grâce, dans le sens que on peut pas juste dire « j'étais un disciple de Jésus, puis j'étais un disciple accompli, puis j'obéis à la parole, puis la parole dit d'aimer, puis je vais aimer ». Il faut qu'il y ait le cœur qui soit touché, il faut que le Saint-Esprit qui produise en nous ces émotions, cet amour ressentir de vraiment aimer Dieu, d'aimer les gens et d'être en train d'aimer. C'était la première partie un peu sur l'amour général. Et s'il y a des couples qui sont là à l'écoute, qui disent « Écoute, c'est la Saint-Valentin, quand est-ce qu'il va parler des couples? » Eh bien, c'est maintenant. On peut aller à la prochaine image, l'amour dans le couple. Donc, je voudrais pas passer sous silence l'amour dans le couple. Et on veut voir ensemble quelques pensées sur l'amour que l'on peut vivre entre conjoints. Si vous n'avez pas de conjoint, je pense que cette partie-là s'applique aussi très bien envers les personnes chères, les personnes proches que vous avez dans votre entourage, que ce soit vos enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents, vous pouvez mettre en pratique et appliquer ces choses-là, mais on veut le diriger plus précisément dans le couple. Premièrement, aimer, c'est agir avec bienveillance, avec considération, avec tact. Je veux prendre soin du cœur de mon conjoint. Ça veut dire que je veux vraiment me soucier de lui, puis je veux comprendre ce qui est important, c'est où ses préoccupations. Je veux mettre à sa place, donc faire preuve de considération. C'est se demander comment je peux lui faire du bien. Aimer, c'est faire preuve de compréhension. Comprendre ce qui est important pour l'autre. Faire preuve de compassion, de miséricorde. Pas être sévère, mais être indulgent. Donc, considération, bienveillance. Aimer, c'est être là pour l'autre quand il ou elle en a besoin. Savoir mettre l'autre en priorité quand il y a un signal d'alarme qui est mentionné. Aimer, c'est faire passer les intérêts de l'autre avant les nôtres. Et je sais, parfois, il peut y avoir des couples qui sont dans des dynamiques malsaines, qu'il y en a, c'est toujours le même qui se donne pour l'autre et on pense là, on veut plus s'adresser à des situations où les deux sont en train de donner. Donc, quand on veut aimer, si on fait passer les intérêts de l'autre avant les nôtres et que l'autre répond à ça et qu'il fait la même chose, on est dans une situation gagnante. Aimer, c'est faire preuve d'humilité en réalisant que l'autre personne est aussi importante que moi. Elle a droit aux mêmes égards que moi, au même respect. Ses goûts, ses intérêts sont aussi importants que les miens. Donc, il y a un aspect d'humilité où on se croit pas supérieur, on croit pas que l'autre est privilégié de nous avoir comme conjoint, comme mari ou comme femme, mais de dire, hey, écoute, je peux amener une contribution, mais mon conjoint m'amène tellement, puis moi aussi, je me considère privilégié d'être avec cette personne. Aimer, c'est faire passer la personne avant les choses. Bien des fois, on réalise que un objet cassé, une chose perdue nous met dans un état où la personne devant nous perd de sa valeur parce que c'était la chose qui était importante. Donc, faire passer le conjoint, la personne, avant les choses, avant l'argent. Parfois, c'est avant les projets, avant nos buts qu'on s'est mis. Et ça veut pas dire que s'il y a quelque chose qu'on a vraiment à cœur, que l'autre est pas d'accord, qu'on oublie ça, puis qu'on c'est toujours non. Mais parfois, c'est qu'il va y avoir un délai dans le projet. Parfois, ce sera pas les bonnes circonstances. Et l'autre va voir notre amour dans le sens qu'on est prêt à attendre. On est prêt à en reparler puis à accepter que notre conjoint n'est pas prêt pour s'engager dans telle avenue. Aimer, c'est écouter. Écouter vraiment. Écouter attentivement. Écouter en cherchant à comprendre. Et moi, de plus en plus, peut-être parce que je suis quelqu'un qui est verbomoteur, qui parle beaucoup, bien des fois dans des conversations, je me dis, hey, Richard, là, arrête de parler, écoute l'autre personne. Quel acte d'amour que d'écouter dans le couple. Comme on a besoin de s'écouter dans un couple. Écouter, c'est aimer en donnant la chance à l'autre de se sentir aimé parce que vraiment écouter. Aimer, c'est aussi parler. Parler avec douceur et bonté. En évitant les critiques, les reproches, en évitant les tensions qui peuvent se manifester par des cris, par des attaques. Aimer, c'est prendre le temps de parler pour partager ce que l'on vit. Parler, c'est entrer en relation avec l'autre en s'ouvrant, en partageant notre monde intérieur, en faisant confiance, en donnant accès de dire « j'aime, j'ai confiance et je suis capable de partager ce que je vis et je veux pas me cacher parce que j'ai confiance que l'autre va m'aider, va me comprendre, puis ça va m'aider à grandir dans le domaine, dans la situation que je vis. » Aimer, c'est dialoguer quand on parle de communication, de parler, d'écouter. C'est un échange. On parle, on écoute. On écoute et on parle. C'est dans les deux sens. C'est pour les deux et les deux se sentent partie prenante. Aimer, c'est communiquer, être en communion dans l'intimité. On a ouvert nos cœurs et ça nous fait du bien. On est en sécurité et on se sent compris. Aimer dans le couple, c'est faire preuve de persévérance, de patience dans l'épreuve. C'est s'engager à continuer de faire ce qui est bien, même lorsque ça devient, c'est plus agréable, quand c'est plus facile, c'est plus le fun, là. Ben, aimer, c'est continuer à être là, continuer l'engagement. Dans certaines situations, on va continuer d'aimer l'autre qui n'est plus aussi aimable. Aimer, c'est faire confiance, espérer et croire le meilleur de l'autre, même dans des situations désespérantes. Aimer, c'est persévérer dans cet amour qu'on a quand c'est plus facile. Aimer et être aimé et se sentir profondément aimé est l'une des plus belles choses qu'on ne peut pas expérimenter ici en étant sur la terre. On peut dire sans se tromper que c'est ce qu'il y a de plus grand. Avoir l'opportunité de vivre un tel amour avec une personne sur une longue période dans le cadre du mariage, c'est vraiment un privilège et ça donne vraiment la chance de vivre le réel bonheur. Aimer nous donne l'occasion de se donner pour l'autre et quand on se donne pour la personne, on en a de la joie. Le genre d'amour que quand on a des jeunes enfants et qu'on donne notre vie à en prendre soin, on est tellement comblé puis heureux comme parents. Hein? Et c'est tellement drôle de voir des adultes qui se séparent, on voit ça dans les films, même dans la vraie vie, de dire « je n'aime plus mon conjoint, papa et maman, ils se séparent, mais sache que toi, mon enfant, là, ça va jamais m'arriver de toute ma vie que je t'aimerai plus. Toi, je vais t'aimer toujours. » Imaginez si ce genre d'amour, cette joie de se donner pour l'autre, et pas seulement envers les enfants parce qu'on se sent responsable envers eux, mais c'est également envers notre conjoint. Tout un privilège de pouvoir investir dans une relation qui va durer, qui va perdurer dans le temps, et que l'investissement que tu fais, que ça rapporte parce que ça te fait du bien. Et ça, ça n'a pas de prix de savoir que il y a un engagement des deux côtés et que tu n'investis pas dans une relation qui risque d'arrêter à tout bout de champ. Plus on aime une personne, plus on s'attache à elle. Plus elle a de la valeur à nos yeux. C'est là que l'amour grandit. L'amour est fait pour donner et on n'est jamais perdant quand on aime les autres parce que notre cœur se sent bien, notre cœur s'agrandit, notre cœur développe cette capacité à avoir les valeurs, les vertus de Dieu dans la parole. L'amour est fait pour donner, mais l'amour est fait aussi pour recevoir. On en a besoin. On est dans un monde impatient, dur, intransigeant. C'est réconfortant de savoir que quand on va rentrer à la maison, on va avoir un havre de paix qui va avoir au moins une personne en cette journée qui va nous aimer. Ça va être mon mari, ça va être ma femme. Peu importe les circonstances, on va pouvoir compter sur son amour. Et c'est ce que... Je me souhaite, ce que je souhaite à ma conjointe, c'est ce qu'on désire, vivre cet amour, et c'est ce que je vous souhaite à vous qui êtes là en train d'écouter, d'avoir la grâce d'aimer une personne en particulier, votre conjoint, et d'avoir la grâce d'aimer et d'être aimé, et d'être dans cette sécurité, cette confiance. Donc, que Dieu, en cette journée de Saint-Valentin, agisse dans nos cœurs, qui rend nos cœurs parfois durs, plus mous, un cœur de chair, un cœur qui dit, « Oui, Seigneur, je veux pas être occupé, préoccupé, centré sur toutes sortes de choses qui sont secondaires, mais je veux me concentrer sur la voie par excellence, sur la plus grande de ces choses, l'amour. » Et on veut remercier Dieu qu'il nous aime. On peut recevoir cet amour-là. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour tout l'enseignement de ta parole. Ta parole nous dit ce qu'est l'amour véritable. Ta parole est l'histoire d'amour de toute éternité d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu tellement grand qui nous dépasse, qui se tourne vers sa créature pour manifester, étaler tout ce qui est dans son cœur. Seigneur Jésus, merci d'aimer ta créature. Merci d'aimer les êtres humains. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés personnellement et de t'être révélé à nous. Seigneur, on méritait pas que tu nous fasses cette grâce-là. Et Seigneur Jésus, on veut pas être pris dans un système de religieux, de croyances, mais on veut que, premièrement, c'est une relation d'amour avec le Dieu éternel, avec le Dieu qui est amour. Seigneur Jésus, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu vois nos relations de couple, Seigneur, comme on a besoin de ta grâce. On a besoin d'être de un peu pousser à tendre vers l'amour, mais on veut répondre en même temps à cette invitation du cœur par le Saint-Esprit à aimer, à voir l'amour dont Jésus nous a aimés, puis que à l'exemple de Christ, qu'on puisse nous aussi décider d'aimer notre conjoint, d'en faire une personne aimée, choyée, tout à fait spéciale. Seigneur Jésus, on veut aussi donner cet amour à ceux qui nous entourent, à nos enfants, notre famille, à nos proches, ceux qu'on côtoie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ayant reçu ton amour, on veut l'expérimenter. Seigneur Jésus, fais qu'à chaque instant, on puisse se sentir profondément aimé de toi. On le sait dans notre cœur, on le sait dans nos croyances, dans notre tête, Seigneur, mais on veut vraiment le ressentir, l'expérimenter. On veut pas se refroidir. Seigneur Jésus, merci pour cette vérité. Merci pour l'occasion qu'on a de mettre l'emphase dans cette journée de Saint-Valentin. Et Seigneur, je te prie que tu puisses mettre une grâce tout à fait spéciale sur chacun des couples de l'Église. On te le prie en ton nom. Amen.